Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Tout le monde est en congé et pour ceux qui bossent, eh bien, on est plus ou moins en mode ralenti. Je me suis donc pas levé ce matin pour vous raconter les marchés et je me suis dit que pour une fois, puisqu'une fois n'est pas coutume, je pourrais aborder un sujet de fond. Et là, tout de suite, il y a un sujet qui me trotte dans la tête depuis plusieurs semaines. Un sujet dont on parle beaucoup, mais qui étrangement n'indigne personne. Et c'est précisément pour ça que ça me dérange. Parce que quand un trader se fait pincer pour insider trading sur une action, une seule action, on fait des plateaux de télé pendant 3 jours, on invite des avocats, on parle éthique des marchés, on sort les mouchoirs et des fois même, on fait des films ou on écrit des bouquins. Mais quand on parie des millions de dollars 15 minutes avant des annonces capitales de la Maison Blanche sur l'Iran, c'est silence radio. Alors, soyons clairs, hein, l'insider trading classique, c'est moche, c'est illégal, mais ça reste quand même un cancer localisé. On chope, on sanctionne et on passe à autre chose. Des fois, on chope pas et c'est tant mieux pour le gars qui est passé entre les gouttes. Pas vu, pas pris. Sauf que, quand l'info vient du sommet de l'État, quand la politique étrangère devient un produit dérivé pour quelques initiés, eh bien, on n'est plus dans le cancer localisé, on est dans la métastase et la phase terminale. Et là, ce qui est en jeu, c'est plus la monte d'un hedge fund, c'est la confiance dans le marché lui-même. Et c'est aussi le fait que quand on arrive au stade de magouiller en plein jour sans la moindre gêne, ça devient quand même inquiétant. Et là, ce qui se passe, c'est franchement très inquiétant. Alors aujourd'hui, on va parler des magouilles. On va parler des magouilles et des insiders sur Pennsylvania Avenue. Imaginez, nous sommes un mardi, il est 15h45, il y a un type quelque part, on ne sait pas exactement où, peut-être à Genève, peut-être à New York, peut-être même à 10 mètres du bureau ovale. Un type qui clique sur un bouton. Et sur le bouton en question, c'est marqué « Sell oil », vendre le pétrole, pour 430 millions de dollars. 15 minutes plus tard, à 16h pile, Donald Trump publie un post sur Truth Social, annonce surprise, extension du cessez-le-feu avec l'Iran, le baril plonge, se pète la figure, et notre trader anonyme, lui, il encaisse le pognon. Coup de bol ? Intuition ? Pure coïncidence ? Lecture dans le marc de café ou technique vaudou inconnue ? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui pue. Une histoire qui pue. Une histoire de plus de 2 milliards de dollars qui ressemble étrangement à de l'insider trading, mais à un niveau de pouvoir qu'on n'avait pas vu depuis longtemps.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans cette version intemporelle du Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et c'est parti pour une plongée dans le monde du grand sachoir et de ceux qui savaient. Alors, il y a des semaines, des périodes où le marché ressemble à une espèce de montre suisse, hein, une mécanique de précision hyper bien rodée, chaque rouage bien à sa place. Bon, d'accord, en ce moment, c'est pas tout à fait ça, et c'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais ça arrive. Parfois, ça arrive. Et puis, il y a les autres semaines. Celles où le marché ressemble à un casino de Las Vegas à 4h du matin, après 3 bouteilles de tequila où plus personne se souvient de rien. Une rumeur de cessez-le-feu, 2 menaces, un tanker qui crame dans le détroit d'Ormuz, et 3 types en chemise blanche qui cliquent sur « Sell oil », 30 secondes avant tout le monde. 3 types qui sont plus égaux que les autres, comme dirait Coluche. Depuis le retour de Trump à Pennsylvania Avenue, on nous a demandé de croire à beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. On nous a demandé de croire que le pétrole réagissait normalement, que les futurs bougeaient parce que les investisseurs réévaluaient le risque géopolitique, la formule magique des communiqués bidons, que les ordres massifs placés juste avant les annonces présidentielles, c'était sans doute le hasard. Que des traders anonymes, quelque part entre Londres, Genève, New York et Mar-a-Lago, avaient juste une intuition. Une intuition, comme par hasard, toujours 15 minutes avant le communiqué. Comme par hasard, toujours dans le bon sens. Comme par hasard, toujours avec des tailles de position qui ne ressemblent pas à « j'ai un feeling », mais plutôt à « je sais exactement ce qui va se passer parce que je le sais avant les autres ». Soyons clairs, l'insider trading, c'est pas nouveau. L'insider trading existe depuis qu'on a inventé la bourse. C'est juste une nouvelle saison de la même série. La seule différence, cette fois, c'est que cette série s'écrit en lettres rouges et que ces lettres-là, elles veulent dire méthode MAGA. Pour comprendre ce qui se passe en 2026, il faut qu'on remonte le temps. Il faut qu'on parle d'un homme. Un nom que tous les vétérans de la finance connaissent par cœur. Steve Cohen, l'ancien patron de SAC Capital, le hedge fund le plus rentable, le plus craint, le plus admiré et accessoirement le plus surveillé de sa génération, surtout par le FBI. Pendant près de 20 ans, SAC Capital a affiché des performances que les statisticiens regardaient à peu près comme on regarderait un cheval qui se mettrait à parler, et à parler en grec en plus. 30% de rendement annuel, en moyenne, année après année, y compris dans les années où le reste du marché se faisait massacrer. Comment est-ce qu'il faisait ? Du talent, de la recherche fondamentale, une connaissance approfondie des marchés. Mes fesses, ouais, mes fesses. En 2013, le château de cartes s'est effondré. SAC Capital plaide coupable, insider trading, 1,8 milliard de dollars d'amende, la plus grosse de l'histoire à l'époque. Le fonds met la clé sous la porte. 8 anciens employés sont inculpés, plusieurs finissent en prison. Steve Cohen, lui-même, le patron, le boss, l'instigateur de la machine, il sera jamais inculpé personnellement au pénal. Il a eu une interdiction temporaire de gérer l'argent des autres, un gros chèque à payer sous forme d'amende qui a été payé sur le coin d'une table et il est resté libre comme l'air. Et quelques années plus tard, il revient, plus riche, avec un nouveau fonds qui s'appelle Point 72. Aujourd'hui, il possède les Mets de New York et l'une des plus grosses collections d'art du monde. Parce qu'elle est essentielle pour la suite. Quand une machine financière gagne avec une régularité qui défie les lois de la probabilité, c'est presque jamais le talent et c'est presque toujours l'information. Et l'information privilégiée. Et quand le système finit par sanctionner, et il sanctionne d'abord rarement, eh bien il sanctionne les soldats, pas les généraux. Les généraux, eux, ils payent un chèque, ferment la porte, ils en ouvrent une autre et ils reviennent au sommet, quelques années plus tard, avec un sourire et un nouveau cabinet d'avocats et un nouveau club de baseball. C'est exactement avec cette grille de lecture qu'il faut analyser ce qui se passe sur le pétrole en ce moment. Maintenant, on va revenir aux faits, ce qu'on peut vérifier en tout cas. Reuters a rapporté récemment que des traders ont joué environ 430 millions de dollars à la baisse sur le pétrole. Jusque-là, rien de spécial. Rien de spécial, si ce n'est que la taille du contrat est quand même énorme. Là où ça fait tiquer, c'est que l'ordre a été placé 15 petites minutes avant que Trump n'annonce l'extension du cessez-le-feu avec l'Iran. Et selon Reuters, ce n'était pas un cas isolé. C'était au moins le troisième du mois d'avril, le quatrième au total. Toujours dans le même type de schéma. Toujours avec un timing chirurgical. Et toujours dans le bon sens. Toujours des tailles énormes. Le total des opérations suspectes de ce style, en avril, 2 milliards de dollars et des poussières. En mars, c'était seulement 500 millions. Ça devait être pour essayer. Un tout petit 500 millions. Donc à ce stade, on a deux possibilités. Deux possibilités, pas plus. La première possibilité, on assiste à la plus grande concentration de génies de la finance jamais réunie depuis l'invention du Nasdaq. Des gars tellement brillants qu'ils sentent les annonces présidentielles avant qu'elles existent. Un peu comme un labrador quand il trouve une truffe dans une forêt centenaire du Périgord. Deuxième possibilité, quelqu'un savait quelque chose. Je vous avoue, sans vouloir dire du mal à propos de personne, que je pense quand même très 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 fortement en direction de la seconde hypothèse. Non, parce que quand on regarde la taille des ordres, on n'est pas dans le genre petit trader qui a vu un signal graphique bricolé sur TradingView. On parle de positions massives prises en quelques minutes, juste avant les annonces. C'est la signature classique du trade du gars qui sait. C'est pas une accumulation discrète sur plusieurs jours, c'est juste un gros ordre balancé pile au moment où il rapporte le maximum. Le Wall Street Journal va plus loin. Selon eux, un élu démocrate, Richie Torres, a demandé à la CFTC d'élargir son enquête à une fenêtre de 2 minutes. La CFTC, c'est l'équivalent américain du gendarme des matières premières. Donc 2 minutes, pendant lesquelles 4269 contrats futurs pétrole, soit plus de 430 millions de dollars, auraient été échangés juste avant un poste de Trump qui annonçait un accord pour cesser des bombardements. La Maison-Blanche a répondu la main sur le cœur, je cite à peu près, « Il n'y a pas de preuve directe d'insider trading et notre personnel est soumis à des règles très éthiques. » C'est hyper convaincant. Non, c'est hyper convaincant. Clairement. Non, parce qu'on sait tous que la chose qui empêche les êtres humains de faire des bêtises avec de l'argent, et surtout l'argent des autres, c'est bien connu, c'est un PDF avec des règles éthiques rangées quelque part dans un tiroir. Un peu plus tôt, la même CFTC examinait déjà des trades suspects autour du 23 mars et du 7 avril avec un pari évoqué de 950 millions de dollars. Donc on résume. Annonce politique, trade massif, timing chirurgical, gain potentiel énorme et une enquête. Ça prouve pas la fraude, bien sûr, pas encore, mais ça pose une question d'une simplicité enfantine. Combien de coïncidences faut-il empiler avant que le hasard commence à devenir un suspect? Maintenant, autre question. Pourquoi le pétrole? Pourquoi pas les actions? Pourquoi pas l'or? Pourquoi pas le bitcoin? Parce que le pétrole, c'est le produit financier rêvé pour ce genre de magouille. Le pétrole, c'est magnifique. Pas parce que c'est propre, ça ne l'est pas. Pas parce que c'est moralement intouchable, ça ne l'est pas non plus. Le pétrole est magnifique parce qu'il est tout à la fois. C'est une matière première, c'est une arme géopolitique, c'est un indicateur d'inflation, c'est un actif financier, c'est un outil diplomatique, c'est un produit de spéculation et accessoirement, c'est un thermomètre de la panique mondiale. Et surtout, surtout, c'est un marché qui se traite massivement via des futurs. Autrement dit, pas besoin de posséder un baril ou même plusieurs dans votre jardin, pas besoin d'être Exxon, pas besoin d'une raffinerie, pas besoin de nager dans les hydrocarbures et nul besoin de regarder la série Landman en boucle, même si vous devriez. Tu peux donc acheter ou vendre du pétrole avec du levier, à la vitesse de la lumière, sur des contrats standardisés, avec des tailles monstrueuses. Et ça, depuis la terrasse de ta maison de campagne, depuis le yacht d'un copain oligarque, ou depuis la Situation Room de la Maison Blanche. Non, c'est pratique, c'est simple et c'est rapide. Sur le papier, le marché des futurs, c'est noble. C'est le fermier moderne qui protège son champ de pétrole contre les intempéries du marché. Dans la vraie vie, c'est aussi des hedge funds, des banques, des desks de trading et plein de types avec trois écrans Bloomberg, deux téléphones cryptés et une tension artérielle de hamster sous cocaïne. Et quand un gros acteur arrive avec un ordre énorme à un moment précis, eh bien, il fait bouger le prix. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que si tu sais à l'avance, totalement par hasard, on est bien d'accord, qu'une annonce va faire baisser le pétrole, eh ben, t'as pas besoin d'être un génie. Tu vends juste avant, sans stress. Tu vends, t'attends et t'encaisses. Ensuite, t'expliqueras au monde entier que tu avais simplement bien analysé la situation. N'est-ce pas, Baron? Ouais, en gros, c'est le plus beau métier du monde, le métier de voyant extra-lucide avec un terminal Bloomberg et qui gagne à tous les coups. Quand on parle de manipulation de marché, les gens imaginent souvent un méchant de James Bond avec un chat blanc sur les genoux et un bouton rouge pour vendre du pétrole. La réalité est beaucoup, mais alors beaucoup moins glamour. Et donc, beaucoup plus dangereuse. Ce dont on parle ici, c'est la forme la plus toxique politiquement de l'insider trading. L'utilisation d'une information non publique liée à une décision gouvernementale. Et alors là, on change de catégorie. Clairement! Si un trader sait à l'avance qu'une banque centrale va surprendre les marchés, c'est grave. Si un trader sait à l'avance qu'une entreprise va publier une mauvaise nouvelle, c'est grave. Mais si quelqu'un sait à l'avance qu'un président va annoncer une pause militaire, une trêve, une extension de cessez-le-feu, une suspension de frappe ou une décision quelconque sur l'Iran qui va faire bouger le baril, on n'est plus dans la même dimension. On n'est plus dans la magouille financière classique. On est dans la monétisation privée de décisions de politique étrangère. Vous voyez la nuance? Et c'est là que le précédent sac capital prend toute son épaisseur. Parce que dans l'affaire Cohen, le mécanisme était compliqué. On payait des médecins, on arrosait des chercheurs, des cadres, des consultants, des collaborateurs. On récoltait des informations matérielles qui n'étaient pas publiques par petits bouts. La structure était cloisonnée, tout le monde travaillait dans son coin, personne ne savait rien des activités du voisin. On se rapprochait plus des méthodes du Mossad et du MI6. Le Big Boss ne savait rien. Les emails n'étaient pas conservés, les conversations passaient par téléphone avec des noms de code, bref, du vrai James Bond de l'époque. Mais aujourd'hui, si une administration laisse fuiter le contenu d'une décision géopolitique majeure 15 minutes avant son annonce officielle, eh bien, il n'y a plus besoin de tout ça. Plus besoin d'un réseau de médecins corrompus, plus besoin d'experts payés, plus besoin des coups de croisée, plus besoin d'agents du FBI, un coup de fil, un téléphone jetable, un broker basé dans un pays complaisant. 5 minutes pour passer l'ordre, 200 millions de dollars dans la poche. Beaucoup plus simple, beaucoup plus propre, beaucoup plus rapide, beaucoup plus invisible et infiniment plus rentable. À ce stade, vous vous dites probablement, comme tout le monde, mais que fait la SEC, la SEC? C'est le gendarme financier américain, celui qu'on cite dans les films, dans les séries, dans les scandales, celui qui a coincé SEC Capital, celui qui fait trembler les CEO du Nasdaq quand ils parlent trop à leurs copains de golf. Sauf que sur le pétrole, la SEC, la SEC ne joue pas. Sur les futurs, sur les matières premières, le vrai gendarme, c'est la CFTC, la Commodity Future Trading Commission. Moins glamour, moins connu, mais théoriquement essentiel. Et la CFTC aurait, semble-t-il, commencé à bouger. Comme dirait Coluche, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'elle enquêterait sur ces mouvements suspects qui ont l'air un peu trop bien informés. Promesse d'application ferme des règles, examen des possibles utilisations d'informations non publiques, possible, J'adore, j'adore. Les mecs, ils disent possible. Les régulateurs ne dorment donc pas complètement. Mais ils avancent pas vite non plus. Hein. On a parfois l'impression qu'ils sont terrorisés à l'idée de remonter et de découvrir le poteau rose. Et il y a une vraie raison à tout ça. Pour prouver une manipulation de marché, bah, il suffit pas de pointer du doigt et de dire « Regardez, regardez, c'est louche, c'est louche !» Non, il faut prouver l'intention. Il faut prouver le lien. Et il faut parfois prouver l'artificialité du prix. Il faut prouver l'usage frauduleux d'une information non publique. Traduction pour le commun des mortels, voir un truc louche, c'est très facile. Le prouver devant un juge, c'est une autre paire de manches. Et surtout quand la paire de manches en question est portée par un cabinet d'avocats à 1 800 $ de l'heure. Il faut appeler Jim Phelps et Ethan Hunt parce qu'on est passé en mode mission impossible. Souvenez-vous, sac capital, c'est pas tombé en 6 mois. Il a fallu 10 ans d'enquête, des centaines d'écoutes téléphoniques, plusieurs lanceurs d'alerte, une montagne de documents internes, une coopération interagence pratiquement jamais vue dans l'histoire de la finance. Et au bout de tout ça, le patron, Steve Cohen, a payé un chèque, il bosse toujours dans la finance, et il est à nouveau respectable. Et en plus, il a une équipe de baseball. Bon d'accord, c'est pas les Yankees, mais quand même, il a quand même payé 2,4 milliards pour la franchise et 1 milliard pour étoffer l'équipe. Tout ça pour vous dire qu'un mec comme Cohen n'est pas tombé après 10 ans d'enquête. Autant vous dire que quand l'adversaire de la CFTC est dans le bureau ovale, c'est pas 10 ans qu'il faut. C'est une vie entière. Et Trump, lui, il a 80 ans. La grande nouveauté, c'est pas qu'il y a des traits suspects. Il y a toujours eu des traits suspects. La finance n'a pas attendu Trump pour découvrir que l'être humain aimait beaucoup l'argent. Surtout quand il avait pas besoin de travailler honnêtement pour le gagner. Greed is good, n'est-ce pas, monsieur Gecko? La nouvelle nouveauté, c'est que le chaos politique est devenu un actif financier à part entière, une classe d'actifs. Trump annonce, le pétrole bouge. Trump menace, le pétrole monte. Trump temporise, le pétrole baisse. Trump tweet, les futurs explosent. Trump recule, les shorts encaissent. Avant, un trader pétrole regardait les stocks américains, la production de l'OPEP, la demande chinoise, les raffineries, les flux maritimes, le dollar et les graphiques. Aujourd'hui, aujourd'hui, il regarde Truth Social. On a transformé la première matière première énergétique du monde en sous-produit d'un réseau social politique. C'est tout simplement fascinant et grotesque, mais c'est probablement très rentable. Mais c'est aussi un tout petit peu terrifiant. Parce que le jour où le marché dans son ensemble, comprendra que certaines annonces sont précédées de trades gagnants, un peu trop régulièrement, la confiance se fissurera. Et la confiance en finance, c'est un peu comme l'oxygène. Personne n'en parle tant qu'il y en a, mais tout le monde commence à paniquer quand on commence à en manquer. Le vrai risque, c'est pas seulement que des traders se soient fait des millions sur le dos du contribuable. Le vrai risque, c'est que les autres participants commencent à penser que le jeu est truqué. Et quand le jeu est perçu comme truqué, deux choses arrivent. Les petits sortent et les gros exigent une prime de risque. Et là, soyons clairs, le jeu est truqué. On va pas se mentir. Sérieusement, dans les deux cas, le marché devient moins sain, moins profond, plus brutal. Les mouvements de prix deviennent beaucoup plus violents, couvrir le risque coûte plus cher, la volatilité explose, et à la fin, qui est-ce qui paye? Ben tout le monde, les entreprises, les consommateurs, les États, les banques centrales, bref, nous. Ce qui était au départ un trade suspect sur le pétrole devient une hausse à la pompe, une inflation plus collante, une Fed plus nerveuse, un consommateur plus fragile, un marché action beaucoup plus schizophrène. Quand il y a un crime dans la finance, c'est rarement un crime sans victime. C'est juste que la victime reçoit la facture 3 mois plus tard sous forme d'un litre d'essence à 2,80 $. Moi, ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est pas l'existence possible d'insider, c'est le calme relatif autour du sujet. La manière dont globalement tout le monde s'en fout. Imaginez une seconde que des traders aient placé des centaines de millions de dollars sur une action 15 minutes avant l'annonce d'un rachat, d'un takeover. La SEC débarquerait en hélicoptère avec le SWAT, CNBC ferait des plateaux spéciaux, les avocats seraient déjà en train de facturer leurs heures avant même d'avoir lu le dossier, le département de la justice préparerait des perquisitions avant d'avoir l'adresse sur les mandats, mais là, parce que c'est du pétrole, parce que c'est de la géopolitique, parce que c'est la CFTC, parce que c'est technique, et peut-être parce que ça touche directement la Maison Blanche, tout semble beaucoup plus mou, beaucoup moins volontaire. Eh oui, la trouille. Ça se commande pas. Sous l'ère 2.0, la frontière entre l'intérêt politique et l'intérêt privé s'est dissoute dans une espèce de zone grise tellement vaste qu'elle a maintenant son propre système météorologique. Et probablement sa propre législation. Famille présidentielle dans la crypto, conflit d'intérêts assumés à coup de haussement d'épaule, accords commerciaux annoncés, défaits réannoncés, redéfaits. Chaque tournage de veste est une opportunité de faire une transaction, un trade et de gagner du pognon, surtout quand tu connais la direction. Et plus le pouvoir tweet vite, plus le radar des régulateurs rame pour suivre. Attention, je veux être très clair là. Je dis pas qu'il y a déjà une condamnation. Je dis pas que toutes ces trades sont illégaux. Je dis pas que tel ou tel acteur est coupable. J'ai pas les preuves de toute façon. Je dis juste que quand des centaines de millions, voire des milliards, sont placés juste avant des annonces géopolitiques majeures et que le timing se répète encore et encore, bah, il suffit plus de dire que le marché est efficient. Le marché efficient, c'est très joli dans les livres d'économie. Dans la vraie vie, le marché, c'est surtout efficient pour enrichir ceux qui sont plus égaux que les autres. C'était vrai pour SAC Capital en 2008 et c'est vrai pour le pétrole en 2026. Steve Cohen nous a appris une leçon que personne n'a vraiment voulu retenir. Quand le système attrape enfin les tricheurs, il les attrape trop tard. Ils en attrapent trop peu et ils sont trop bas dans la chaîne. Pendant ce temps-là, les généraux, eux, ben, ils refont surface, ils rachètent des équipes de baseball, ils donnent des conférences sur l'éthique en finance. Cohen l'a fait, Michael Milken l'a fait et Michael Douglas, lui, il a fait passer Gordon Gekko pour un héros à l'écran, alors qu'en fait, c'était juste un escroc. Le plus inquiétant dans cette histoire, c'est pas que des gens trichent. Les gens ont toujours triché, ils tricheront toujours, c'est la nature humaine. Le plus inquiétant, c'est quand le système voit passer les mêmes signaux, les mêmes timings, les mêmes volumes, les mêmes profits, et qui répond avec la dynamique d'une limace écrasée. Là, ça commence à faire peur. Parce qu'à force de laisser croire que certains ont le droit de jouer et que les dépipés, le marché finit par perdre quelque chose de bien plus précieux que quelques milliards. Le marché perd la confiance. Et un marché sans confiance, c'est comme un tanker dans le détroit d'Ormuz avec une mine sous la coque. Ça flotte encore, jusqu'au moment où ça flottera plus. C'était donc ce Morning Bull Live du 1er mai. On parlera des chiffres d'Apple demain, mais si cette histoire vous a fait grincer des dents, comme moi, laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous croyez à la coïncidence ou si vous pensez que la Maison Blanche est devenue le plus gros desk de trading du monde. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partagez la vidéo aussi, ça nous aide vraiment pour développer cette chaîne, ça aide vraiment la chaîne en général et ça excite l'algorithme Made in YouTube. En tout cas, merci à tous d'être là. Bon vendredi. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.